Radio Vatican, France et Afrique.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme dont voici les principaux titres. Les activités du pape au cours de la semaine constitueront l'essentiel de l'actualité de l'Église avant de nous enquérir des nouvelles de l'Église Famille des Dieux qui est au Ghana et au Burkina Faso. L'actualité sociopolitique quant à elle nous conduira entre autres au Burkina Faso, en Centrafrique et au Mali. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous ces bonnes conditions d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
La semaine du pape avec Françoise Niamien.
Le pape a reçu samedi en audience privée tout d'abord le cardinal Mac Willey, préfet de la Congrégation pour les évêques, ensuite Mgr Hector Miguel Cabreros Bidarte, archevêque de Trujillo, président de la Conférence épiscopale du Pérou et président du Conseil épiscopal latino-américain. Il a également reçu les lettres de créance présentées par Monsieur Eric Chesnen, ambassadeur du Gabon. Le Saint-Père avait reçu vendredi en audience privée tout d'abord le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, ensuite Mgr Gonzalo de Villa y Vasquez, archevêque de Santiago du Guatemala, suivi du cardinal Jean-Claude Honerich, archevêque de Luxembourg, puis les membres de la présidence de la Commission des épiscopats de l'Union européenne, enfin les jeunes de la paroisse de Saint-Paul-Apôtre de Syracuse. Le même vendredi, le pape avait nommé préfet de la Congrégation pour le clergé, Mgr Laza Yu Hung-sik, qui était jusqu'ici évêque de Daejeon en Corée du Sud. Au cours de la journée de jeudi, le pape avait accordé une audience privée au cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, ensuite au cardinal Baltazar Enrique Porras Cardoso, administrateur apostolique de Caracas et archevêque de Mérida, au Venezuela, la communauté du séminaire pontifical régional Pied-Undicesimo de Ancona en Italie était également au nombre des hôtes du pape jeudi. Toujours jeudi, le Saint-Père avait adressé une lettre au cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich et Freising en Allemagne, le maintenant dans ses fonctions en réponse à la démission que ce dernier avait présentée. Mercredi, comme à l'accoutumée, le pape avait présidé depuis la cour Saint-Damas du palais apostolique son audience générale, continuant sa série de catéchèses sur la prière avec l'accent mis sur la persévérance dans l'amour. Mercredi, le Saint-Père avait nommé membre de la congrégation pour les églises orientales le cardinal Luis Antonio Tagle, qui est préfet pour la congrégation pour l'évangélisation des peuples. Toujours mercredi, le pape a accepté la renonciation à la charge pastorale de l'archidiocèse de Durban en Afrique du Sud, présentée par le cardinal Wilfried Fox Napier et nommé pour le remplacer dans cette archidiocèse Mgr Mandla Siegfried Wara, qui était jusqu'à cette nomination vicaire apostolique de Ingwavuma. Lundi, le pape avait reçu en audience privée le cardinal Silvano Maria Tomasi. Bien auparavant, le Saint-Père avait reçu M. Alexander van der Bellen, président d'Autriche, qui a ensuite rencontré le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin. Ce dernier était accompagné du secrétaire aux relations avec les États, Mgr Paul Richard Gallagher. Toujours lundi, le Saint-Père a accepté la renonciation à la charge pastorale présentée par Mgr Lewis Zingler, archevêque de Monrovia au Libéria.
Annuler la dette des pays pauvres et réinvestir ces fonds dans le redressement de la pandémie causée par le Covid-19 et dans la lutte contre les changements climatiques. Tel est l'appel lancé par Caritas Internationalis à l'occasion de la réunion du G7 qui se tient en Cornouaille du 11 au 13 juin et qui réunit les représentants des 7 pays les plus avancés économiquement du monde. Le Royaume-Uni, l'Italie, le Canada, la France, l'Allemagne, le Japon et les États-Unis. La Covid-19, explique Aloysius John, secrétaire général de Caritas Internationalis, a mis sous une loupe les injustices sociales rampantes dans le monde d'aujourd'hui. Les éliminer doit être la seule façon de reconstruire l'avenir. L'organisation caritative rappelle ensuite les conséquences dramatiques de la dette sur les populations des pays en développement. En Zambie, par exemple, elle représente 45% du budget annuel du gouvernement. Les quelques ressources disponibles ne sont donc pas suffisantes pour renforcer le système national de santé face à l'urgence provoquée par le coronavirus qui, à ce jour dans la nation africaine, a laissé un bilan des 106 000 infections et plus de 1 300 décès. Au Burkina Faso, au nom de notre Église Famille de Dieu, nous présentons nos sincères condoléances à Monseigneur Dabiré, au diocèse de Dori, aux familles endeuillées, et nous confions à la miséricorde de Dieu les victimes de Solane et toutes les victimes d'attaques terroristes, victimes civiles et militaires dans notre pays ainsi qu'au Niger, a déclaré le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso, à l'ouverture de la deuxième assemblée plénière de la conférence épiscopale. La piété chrétienne, indique le cardinal Ouédraogo, nous pousse à nous incliner devant la mémoire de toutes les personnes tombées sous les balles assassines des terroristes dans nos deux pays, le Burkina Faso et le Niger. Depuis notre assemblée plénière de février 2021 jusqu'au jour où la barbarie s'est encore manifestée par le massacre de Solane, dans la paroisse de Seba, diocèse de Dori, plus de 150 morts, dont 4 membres de la CCB, communauté des bases chrétiennes de Solane. Au Ghana, Mgr Philippe Namé, archevêque de Tamale, a réitéré le 7 juin dernier l'engagement de la Conférence des évêques catholiques du Ghana de planter 1 million d'arbres pendant la saison de pluie de cette année, comme annoncé lors de notre assemblée plénière au début du mois de mai. Deux événements sont à l'origine de la décision de l'épiscopat du Ghana de lancer un programme de plantation d'arbres. L'anniversaire spécial de Laudato Si, la lettre encyclique du pape François consacrée aux questions environnementales et sociales, à l'écologie intégrale et de façon générale à la sauvegarde de la création, et à l'annonce en avril par le gouvernement du projet Ghana Vert qui vise à planter 5 millions d'arbres en 2021. En République démocratique du Congo, la conférence épiscopale se prépare à la tenue de sa prochaine assemblée plénière. Les précisions de notre correspondant à Kinshasa.
Du lundi 14 au vendredi 18 juin se tient à Kinshasa la rencontre annuelle de l'Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo, réunissant les évêques des 47 diocèses du pays. L'Assemblée plénière aura été précédée et préparée par le comité permanent de la Conférence épiscopale qui a réuni au même centre d'accueil Caritas de Kinshasa les archevêques des 6 provinces ecclésiastiques et les présidents des 12 commissions épiscopales, sans oublier le président et le vice-président. Le vice-président est Mgr Joseph Moko, évêque d'Idiofa. Le président est l'archevêque de Kisangani, Mgr Marcel Utembi. Voici ce que le président de la conférence épiscopale a notamment déclaré à la clôture de la réunion du comité permanent le vendredi 11 juin.
Ce comité permanent est éminemment pastoral. Comme d'habitude, nous avons commencé les travaux par une analyse de la situation sociopolitique et pastorale en RD Congo. Nous avons dégagé quelques défis pastoraux. Nous avons décidé de transmettre pour approbation à l'Assemblée plénière les dossiers suivants. Les directives et instructions de la CENCO pour la formation des futurs prêtres. Les guides pour la pastorale des personnes âgées. Les projets d'accord spécifiques pour la mise en application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la RD Congo.
Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Un soldat burkinabé a été tué et 2 blessés samedi lors d'une embuscade contre une patrouille militaire dans la commune de Bourzanga, dans le nord du Burkina Faso, ont indiqué samedi des sources sécuritaires. Une patrouille du détachement militaire du groupement des forces du secteur centre-nord a été la cible d'une embuscade ce samedi à Sanaré, une localité de la commune de Bourzanga dans le nord du pays, a déclaré une source sécuritaire. Un nouveau premier ministre a été nommé vendredi en Centrafrique dans un décret présidentiel 6 mois après la réélection contestée du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Au cadre du parti présidentiel, Henri-Marie Dondra était ministre des Finances et du Budget depuis 5 ans. Il remplace Firmin Grébada qui occupait le poste depuis février 2019 et qui avait remis sa démission la veille. Un nouveau gouvernement a été formé vendredi au Mali où les militaires, auteurs des 2 putschs en 9 mois, gardent la haute main sur les ministères régaliens alors que l'ambiance est tendue entre Bamako et son allié français après des critiques sur la légitimité du nouveau président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Jeudi, c'est toute une partie du Sahel que le président Emmanuel Macron a mise face à ses responsabilités en annonçant la fin de l'opération française anti-djihadiste Barkhane, présente au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, au profit d'une coalition internationale dont les contours restent à préciser. Mais il a d'abord visé le colonel Goïta, investi lundi président de la transition au Mali, en le qualifiant de putschiste et reprochant à l'Afrique de l'Ouest de l'avoir reconnu comme président des transitions 6 mois après lui avoir refusé ce droit. Par ailleurs, l'armée française avait tué samedi dernier dans le nord du Mali un cadre du groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique, responsable du rapt en 2013 de 2 journalistes français de RFI, assassinés après avoir été pris en otage, a annoncé vendredi la ministre des Armées Florence Parly. Les bureaux de vote ont ouvert samedi matin en Algérie pour des élections législatives censées apporter une nouvelle légitimité au régime, mais rejetées par le mouvement contestataire du Irak et une partie de l'opposition sur fond des répressions généralisées. Dans un autre registre, les 3 figures d'Irak, Khaled Drareni, Hissan El-Kadi Karim Tabou, arrêtés jeudi à la veille des élections législatives, ont été libérés dans la nuit de vendredi à samedi, après plus de 24 heures de détention selon leurs proches et une association de soutien. La justice zambienne a rejeté vendredi la demande de 2 défenseurs de droits de l'homme d'interdire au président sortant Edgar Lungu de se porter candidat à sa propre succession à la prochaine élection présidentielle en août. Sichua Sichua et Linda Kassonde de l'organisation zambienne de défense de droits Chapter One Foundation avaient déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle arguant que M. Lungu n'était pas éligible au prochain scrutin puisqu'il avait déjà rempli 2 mandats.
Radio Vatican, France-Afrique, Donatien Niembo.
La compagnie d'aviation sud-africaine South African Airways, qui sort d'un plan de sauvegarde, sera désormais détenue à majorité par un consortium privé composé notamment d'un opérateur aérien low cost, a annoncé vendredi le ministre des Entreprises publiques Pravin Gordhan. Le consortium Takatso, qui fera un investissement initial de 3,5 milliards de rands, soit 211 millions d'euros, détiendra la majorité des parts alors que le gouvernement conservera une participation de 49%. Des associations de la société civile basées à Jacqueville dans le sud de la Côte d'Ivoire ont dénoncé la gestion opaque des revenus pétroliers évoquant la malédiction du pétrole sur la ville. La production de pétrole en Côte d'Ivoire qui a enregistré en 2019 une augmentation de 12% pour atteindre plus de 36 000 barils par jour provient depuis de forages situés au large de la cité balnéaire de Jacqueville à une 50aine de kilomètres à l'ouest d'Abidjan et exploité par plusieurs compagnies étrangères. Le père jésuite Antoine Kériel nous introduit à la méditation avec les lectures du 11e dimanche ordinaire de l'année B.
Dans les textes lus ce dimanche résonne une forte invitation à la patience, à l'espérance et à la joie. La patience tout d'abord. Il en faut du temps pour qu'un jeune cèdre prenne racine, grandisse et se transforme en un arbre magnifique. Il en faut du temps pour qu'une semence jetée en terre germe, lève et donne naissance à un épi qui peu à peu blondira jusqu'à la moisson. Il en faut du temps pour que d'une toute petite graine de moutarde émerge une plante qui deviendra la plus grande de toutes les plantes potagères. Ces images bibliques nous aident à comprendre et à accepter que notre vie est, elle aussi, prise dans un lent processus de maturation. Il est vain et futile de vouloir tout et tout de suite. Autrement dit, il est vain et futile de rechercher des raccourcis pour éviter l'épreuve de grandir en humanité. Toute maturation passe en effet par des épreuves. L'arbre qui grandit au fil des ans doit traverser les nombreux hivers et les multiples dangers qui menacent parfois jusqu'à sa propre vie. La semence qui germe doit, elle, accepter de mourir pour donner naissance aux épis dont les grains seront ensuite récoltés. La Bible nous rappelle que l'action de Dieu dans le monde et dans notre vie s'inscrit dans l'amplitude du temps long, dans la longue durée. L'espérance, ensuite. Cette longue durée ne se déploie pas dans ce qui serait la monotonie des jours qui passent. Cette longue durée est nécessaire à la production de véritables fruits qu'il convient de reconnaître lorsqu'ils apparaissent et qu'il convient de savoir cueillir en leur temps. L'apôtre Paul écrit dans la lettre aux Corinthiens que nous entendons ce dimanche « Nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. » La route peut nous sembler épuisante, et il nous tarde d'arriver au but. Qui d'entre nous ne ressent pas les épreuves de la vie quotidienne? Et pourtant, c'est bien là, à travers les vicissitudes, mais aussi les bonheurs de l'ordinaire, que se construit notre humanité. Les yeux de la foi nous font découvrir le relief de ce que nous qualifions d'ordinaire. Nous voyons alors les désolations et consolations qui traversent nos journées. Nous repérons le passage de Dieu dans nos vies et la manière dont nous répondons à sa présence. Oui, nous espérons cette présence de Dieu dans nos vies, alors même que parfois, nous ne nous donnons pas les moyens de la découvrir. Quels sont ces moyens? Faire silence, relire le temps qui passe, être attentif à celui qui, au plus intime de nos journées, travaille nos vies. Ce chemin conduit à la joie. Dans les textes lus ce dimanche, cette joie prend la forme de l'épanouissement d'un cèdre magnifique où les oiseaux du ciel trouvent un abri, de la rencontre de tel ou tel homme juste qui grandit comme un palmier, de l'émerveillement devant l'épi prêt à être moissonné ou devant l'arrivée à maturité d'une plante potagère dont l'ombre généreuse accueille des animaux en quête d'un abri sûr. Le message biblique nous appelle à cette vie pleine de joie et nous conduit jusqu'à cette joie qui ne trompe pas car elle est accueil généreux du Dieu créateur. Nous pouvons en être assurés. Comme disciples de Jésus, nous sommes engagés sur ce chemin. Nous ne cherchons pas à être des personnes édifiantes par elles-mêmes. Nous cherchons à être des personnes qui, marchant à la suite de Jésus, montrent le patient chemin de la joyeuse espérance qui nous est donnée en Jésus. Déjà aujourd'hui, dans notre quotidien, et malgré les épreuves.
Place au père jésuite Martin Bahati qui continue de nous présenter l'encyclique Fratelli Tutti du pape François.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui notre lecture méditative de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale se penche sur le troisième point du chapitre 3. Ce point s'intitule « Transcender un monde de partenaires ». Pour commencer, le pape nous invite à revenir sur la parabole du bon samaritain qui a encore beaucoup à nous enseigner. Un homme blessé gisait sur le chemin. Les autorités qui l'ont croisé n'avaient pas fixé leur attention sur cet appel intérieur à devenir proche, mais sur leur fonction, sur leur position sociale, sur une profession fondamentale dans la société. Ces autorités, continue l'encyclique, se sentaient importantes pour la société du moment et leur urgence était le rôle qu'elles devaient jouer. L'homme blessé et abandonné sur la route était une gêne pour ce projet, une entrave et par ailleurs, il n'assumait aucune fonction. L'encyclique montre que les généreux samaritains, libre de tout titre et de toute charge, il a été à mesure d'interrompre son voyage, de changer de projet, d'être disponible pour s'ouvrir à la surprise de l'homme blessé qui avait besoin de lui. Dès lors, le pape se demande, Quelle réaction une telle narration peut-elle provoquer aujourd'hui, dans un monde où apparaissent et grandissent constamment des groupes sociaux qui s'accrochent à une identité qui les sépare des autres? Comment peut-elle toucher ceux qui ont tendance à s'organiser de manière à empêcher toute présence étrangère susceptible de perturber cette identité et cette organisation autoprotectrice et autoréférentielle? Dans ce schéma, poursuit l'encyclique, la possibilité de se faire prochain est exclue, sauf de celui par qui on est assuré d'obtenir des avantages personnels. Comme le montre si bien le pape, le terme « prochain » perd tout son sens, et seul le mot « partenaire », l'associé pour des intérêts déterminés, a du sens dans le monde actuel. Par ailleurs, le pape parle de la liberté, égalité et fraternité. Il affirme que la fraternité n'est pas que le résultat des conditions de respect des libertés individuelles, ni même d'une certaine équité observée. La fraternité a quelque chose de positif à offrir à la liberté et à l'égalité.
Invité du jour.
Notre invité du jour est encore le père Alain Mayama, religieux spiritain de la République du Congo, Congo-Brazzaville, et membre de l'Association des religieux et religieuses d'Afrique et de Madagascar au service de Generala à Rome. Dans cette deuxième et dernière partie de l'entretien que le père Mayama a accordé à Radio Vatican à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique célébrée mardi 25 mai dernier, il nous parle de la jeunesse africaine et du terrorisme.
La jeunesse africaine est déroutée et a perdu confiance. Parce qu'il y a un chômage criant, comme un avenir sans perspective vraiment. Et ne voient pas comment se sortir de leur situation. C'est-à-dire qu'ils font des études, il n'y a pas de travail. Et ils se sont comme abandonnés. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils pensent sortir du continent et aller ailleurs chercher le bonheur.
Cette immigration clandestine.
Et ici, déjà en Italie, nous avons les nouvelles. Combien d'Africains périssent dans la mer parce qu'ils veulent trouver un lieu sûr où ils peuvent avoir de petits travail, faire quelque chose de leur vie. Malgré tous les diplômes qu'ils ont acquis au pays, ils n'ont pas toujours de perspective. Et cela s'explique aussi par les politiques que nous mettons en place. Après, tout est lié, hein, l'économie, la politique et l'éducation. Parce que nous formons les jeunes pour quel avenir et pour quel type de travail. Alors, il faut à ce niveau-ci refonder le système éducatif pour des objectifs précis et qui répondent aux besoins de nos nations.
Et pensez-vous que cette migration clandestine de la jeunesse africaine est la solution?
Elle n'est pas la solution. Il faut trouver des moyens pour retenir les jeunes africains en Afrique. Il faut continuer à y travailler. Il faut que les dirigeants politiques et les sociétés civiles et toutes les forces vives de notre continent réfléchissent sur la question et mettent les moyens pour que nous gardions la jeunesse africaine en Afrique. Parce que ce sont les forces vives de notre continent et ce sont eux qui vont apporter justement le développement du continent. Mais il faut qu'on leur donne un cadre de vie meilleur, pas celui que nous le présentons aujourd'hui. Et c'est ça qui fait douter les jeunes Africains, qui les pousse à sortir du continent.
Le jeune Africain aussi qui doit prendre conscience de ce dont il est capable.
Absolument. Il doit se dire que le bonheur n'est pas seulement à l'extérieur. On en trouve aussi à l'intérieur le bonheur. Et il faut qu'il croie à ses talents, à ses énergies, à ses moyens de participer au développement de l'Afrique. Mais cela passe par une confiance en soi, d'abord. Après, confiance à la nation. Est-ce que j'ai une place dans cette nation? Même si j'ai confiance en moi-même, est-ce que la nation me donne une place pour pouvoir me réaliser comme personne?
Père, nous poursuivons toujours avec la question du terrorisme en Afrique. L'Afrique en proie au terrorisme qui ne cesse d'endeuiller les familles. Des milliers de personnes sont parties du fait de cette autre manière de faire.
Le terrorisme est une réalité en Afrique, malheureusement. Après, les causes, on les trouve dans la pauvreté, les exclusions. Et ce n'est pas une question facile, on va dire. Et parce que après, il y a plusieurs niveaux de terrorisme. Dans chaque zone géographique de l'Afrique, on trouve des groupes terroristes. Mais après, avec des objectifs un peu différents, selon les cas. Donc au Sahel, dans le Maghreb, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. Il y a aussi un terrorisme organisé un peu par l'extérieur. Il y a plusieurs causes à cela. Il y a la responsabilité des politiques africaines qui ne sont pas forcément acceptées par une catégorie de la population et peut-être que cette catégorie de la population se rébelle.
Alors, faut-il tuer pour se faire entendre ?
Absolument non. Il faut justement peut-être que trouver des moyens pour... Parce que la question que nous nous posons aujourd'hui, pourquoi ces personnes-là se sont organisées en groupe terroriste ? Quelles sont ces causes ? Et c'est une question délicate, j'avoue. Pour savoir vraiment pourquoi ce genre de réaction, de violence, pour pouvoir passer un message. On peut faire autrement. Et c'est ce que nous souhaitons, que ces groupes terroristes-là, justement, arrêtent tout ce qu'ils font. Mais il faut que ceux qui ont la possibilité de parler avec ces groupes-là, essayent de l'écouter et en même temps des politiques pour freiner un peu, on va dire, l'avancée de ce terrorisme-là en Afrique.
L'Afrique a-t-elle les moyens ?
Ok, nous avons quelques possibilités, mais après, aujourd'hui, on ne peut plus travailler isolé. Il faut travailler avec les autres. Alors, il faut que, au niveau de l'Union africaine déjà, il faut réfléchir à une solution africaine. Sur le continent, je crois qu'il y a une commission qui réfléchit sur ces questions-là.
Au regard de tout ce que nous venons de dire, Père, votre mot de fin.
Moi, je vois des signes positifs et des signes d'espérance pour l'Afrique. Je crois que les Africains doivent prendre conscience de leurs responsabilités dans la recherche de solutions de tout ce que nous vivons aujourd'hui.
Père Alain Mayama, religieux spiritant de la République du Congo, Congo-Brazzaville, et membre de l'Association des religieux et religieuses d'Afrique et de Madagascar au service de Generala à Rome. Il répondait aux questions de Françoise Niamien.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Nous sommes à la fin de notre programme. Merci de l'avoir suivi en compagnie de Donatien Nyembo. Le rendez-vous c'est demain, même heure, même fréquence, même radio.
Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis.